Troisième partie, Notre-Dame-des-Neiges. Chapitre 6, Le Père Apollinaire. Le matin suivant, jeudi 26 septembre, je pris de nouvelles dispositions pour me mettre en route. Le sac n'était plus plié en deux, mais pendait de toute sa longueur sur la selle, pareil à un grand saucisson vert, terminé par une touffe de laine bleue à chaque extrémité. Cela ménageait le baudet. C'était plus pittoresque et, comme je pus bientôt le constater, beaucoup plus stable même par grand vent. Mais ce n'était pas sans une certaine angoisse que j'avais pris cette décision. J'avais bien acheté une corde neuve pour ficeler le tout aussi solidement que possible. Et malgré tout, j'étais tourmenté par la crainte de voir les liens se détacher et mes affaires se répandre le long de la route. Mon chemin suivait la vallée aride de la rivière, sur la limite du Vivarais et du Gévaudan. Les montagnes du Gévaudan à droite, plus dénudées si l'on peut dire que celles du Vivarais à gauche, avait pour caractéristique une végétation de taillis bas, clairsemée, qui poussait en masses serrées dans les gorges et se perdait sur les pentes et sur les sommets en buissons isolés. Des deux côtés, des bois de sapins semblaient plaqués ça et là, comme des bandes noires, et à divers endroits on voyait aussi quelques champs cultivés. Un chemin de fer longeait la rivière, le seul de tout le Gévaudan. Pourtant ce ne sont pas les plans ni les projets qui manquent, et l'on m'a même assuré qu'il y a déjà une gare toute construite à Mende. D'ici un an ou deux, ce pays sera peut-être un nouveau monde. Le désert est menacé. Quelques Wordsworth languedociens pourraient dès maintenant traduire en patois le sonnet « Montagnes, vallons et torrents ». Entendez-vous ce sifflet ? Au lieu nommé la Bastide, on me dit qu'il fallait quitter la rivière et suivre une route qui montait à gauche parmi les montagnes du Vivarais. L'Ardèche moderne. Ainsi, j'étais maintenant arrivé à peu de distance de mon étrange destination, le monastère trappiste de Notre-Dame-des-Neiges. Le soleil se montrait au moment où je quittais l'abri d'un bois de sapin, et je fus frappé par la beauté sauvage du pays qui se déployait brusquement devant mes yeux vers le sud. De hautes montagnes rocheuses, bleues comme le saphir, se dressaient à l'horizon. Entre elles, s'étageait une succession de collines abruptes et escarpées, couvertes de bruyères. Le soleil se jouait sur les aspérités des rochers. Les fourrés envahissaient les moindres ravins. L'ensemble était resté rude et inculte comme au jour de la création. Il n'y avait aucune trace de la main de l'homme dans toute cette étendue, ni d'autres signes de son passage que les sentiers tortueux où les générations se succédant avaient marché parmi les hêtres sur les pentes des vallées. Les brumes qui m'avaient enveloppé jusqu'alors s'étaient maintenant transformées en nuages qui fuyaient rapidement et brillaient au soleil. Je respirais à plein poumon. Il était doux d'arriver enfin devant un tableau qui présentait quelque attrait pour le cœur humain. J'avoue que j'aime, dans les spectacles offerts à mes yeux, la netteté des formes, et si le paysage se vendait comme les images de mon enfance, 2 sous en noir, 4 sous en couleur, je ferais la dépense de 4 sous tous les jours de ma vie. Mais si l'aspect des choses était devenu plus riant vers le sud, il restait autour de moi sombre et désolé. Sur chaque sommet, la silhouette mince d'une croix annonçait le voisinage d'une maison religieuse. Un quart de mille plus loin, l'horizon se dégageait vers le sud, et je découvrais des montagnes toujours plus escarpées. Une statuette blanche de la Vierge, au coin d'une jeune plantation, indiquait aux voyageurs Notre-Dame-des-Neiges. Je pris donc à gauche, et continuai ma route, poussant devant moi mon âne qui n'avait rien de monastique, et faisant craquer mes bottes et mes guêtres de laïc. Je n'étais pas loin encore quand le vent m'apporta le tintement d'une cloche, et je ne sais pourquoi mon cœur, à ce son, fut saisi d'angoisse. J'ai rarement éprouvé une terreur plus profonde qu'en approchant du monastère de Notre-Dame-des-Neiges. Voilà ce que c'est que d'avoir reçu une éducation protestante. À un tournant, la peur s'empara de moi de la tête aux pieds, une peur superstitieuse que je ne pouvais dominer. Je continuais à marcher, mais j'avançais lentement comme un homme qui aurait franchi une borne frontière, sans s'en douter, et se trouverait égaré dans la cité des morts. Là, sur une étroite route neuve, entre deux rangées de jeunes sapins, j'apercevais un religieux, à l'aspect moyenâgeux, qui traînait une brouette pleine de gazon. Tous les dimanches de mon enfance, je me plongeais dans le livre de Marco Sadler sur les ermites. Ces estampes me ravissaient. Ce n'était que forêt, plaine, paysage moyenâgeux, un vrai royaume pour l'imagination vagabonde. Et maintenant, à n'en pas douter, je voyais un des héros de Marco Sadler. Il était vêtu de blanc comme tous les spectres. Et dans l'effort qu'il faisait pour pousser sa brouette, son capuchon était retombé à l'arrière, découvrant un crâne qui semblait d'ivoire, jaune comme une tête de mort. Il aurait pu être enterré depuis des milliers d'années, et toutes les parcelles de vie de son être transformées en poussière et brisées par la herse du laboureur. Je n'étais pas non plus très rassuré en ce qui concernait le protocole. Convenait-il d'adresser la parole à un homme qui avait fait vœu de silence? Évidemment non. Mais m'approchant de lui, je le saluai avec un respect profond et superstitieux. Il inclina la tête et m'interpella joyeusement. « Est-ce que j'allais au monastère ? Qu'étais-je ? Anglais ? Ah, irlandais alors ? Non, dis-je, écossais. »« Écossais ? Ah ! Il n'avait encore jamais vu d'écossais. » Il m'examina des pieds à la tête. Sa bonne figure honnête et tannée exprimait un vif intérêt comme celle d'un enfant qui regarderait un lion ou un alligator. J'appris avec désappointement que je ne pourrais être reçu à Notre-Dame-des-Neiges. J'obtiendrais un repas, peut-être, mais c'était tout. Cependant, comme nous continuions à causer, il s'aperçut que je n'étais pas un colporteur, mais un homme de lettres qui dessinait des paysages et qui allait écrire un livre. Il changea alors d'avis sur la manière dont je serais reçu. Je crains qu'on ne tienne compte de la situation sociale, même dans un monastère trappiste. Il me dit que je ne devais pas hésiter à demander le père prieur et à lui exposer mon cas tout au long. Après réflexion, il se décida à venir en personne avec moi, pensant qu'il pourrait me faciliter les choses. Pourrait-il dire que j'étais géographe? Non, j'estimais dans l'intérêt de la vérité qu'il ne le pouvait vraiment pas. « Bien, un auteur alors, » dit-il, un peu déçu. Il m'apprit qu'il avait été au séminaire avec 6 Irlandais, tous prêtres maintenant, qui recevaient les journaux et l'avaient tenu au courant des questions religieuses en Angleterre. Il me demanda avec beaucoup d'intérêt des nouvelles du docteur Pusey, car le digne homme n'avait cessé depuis lors de prier matin et soir pour sa conversion. « Il me semblait si près de la vérité, dit-il. Il finira par y parvenir. Il y a tant de vertus dans la prière. Il faudrait être un protestant bien rigide, une âme bien peu religieuse pour écouter sans sympathie cette histoire toute de charité et d'espérance. » Pendant qu'il était sur ce chapitre, le bon père me demanda si j'étais chrétien. Et quand il sut que je ne l'étais pas, ou du moins pas à sa manière, il détourna la conversation avec beaucoup de tact. La route que nous suivions, et que le robuste moine avait construite uniquement de ses deux mains dans l'espace d'un an, fit un coude et nous aperçûmes quelques constructions blanches un peu au-delà du bois. Au même instant, la cloche retentit de nouveau. Nous arrivions au monastère. Le père Apollinaire, c'était le nom de mon compagnon, m'arrêta. « Je ne puis plus vous parler dans le couvent, me dit-il. Demandez le frère portier, tout ira bien. Mais essayez de me voir encore quand vous passerez par le bois. Là, je peux vous parler. Je suis charmé d'avoir fait votre connaissance. » Alors, levant les bras et agitant les mains, il cria deux fois « Je ne dois pas parler, je ne dois pas parler !» Sur quoi il se mit à courir devant moi et disparut par la porte du couvent. J'avoue que cette excentricité contribua fortement à raviver mes craintes. Mais puisqu'il y avait là un homme si bon et si simple, pourquoi les autres ne seraient-ils pas comme lui? Je pris mon courage à deux mains et je me dirigeai vers la porte, aussi vite que voulait bien le permettre Modestine, qui semblait avoir de l'antipathie pour les monastères. C'était la première fois, depuis que je la connaissais, qu'elle ne mettait pas une hâte inconvenante à franchir une porte. Je demandai l'accès en bonne et due forme, quoique d'un cœur tremblant. Le frère Michel, le frère hospitalier et deux autres frères en robe brune vinrent sur le seuil parlementaire avec moi. Je crois que mon sac attirait particulièrement leur attention. Il avait déjà conquis les bonnes grâces du pauvre Apollinaire qui m'avait demandé, sous serment, de le montrer au père prieur. Était-ce dû à mon habileté, au sac, ou à l'idée qui s'était déjà répandue parmi les moines chargés des étrangers, qu'après tout je n'étais pas un cheminot? Toujours est-il que je n'éprouvais aucune difficulté à me faire accueillir. Modestine fut conduite par un frère laid aux écuries, tandis que moi et mon paquet nous étions admis dans Notre-Dame-des-Neiges.